Bonjour Caroline Brouet et bonjour à toutes et à tous. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Quand Pauline a lu les premiers articles parus l'année dernière sur les violences en cuisine, dans les grands restaurants, elle a tout de suite pensé à son cousin Maxime et à leur adolescence. Ils ont le même âge, Pauline et Maxime. À l'époque, lui était en cuisine, elle au lycée. Elle s'est rappelée que pour les fêtes, bien souvent, toute la famille se déplaçait en Alsace où travaillait Maxime. C'était le seul moyen de passer avec lui les quelques heures qu'il avait de libre entre les services. À l'époque, il était apprenti serveur. Il ne s'arrêtait jamais de travailler. Des horaires de fou, il avait un jour de repos, parfois deux dans la semaine, mais c'était impossible de savoir lequel à l'avance. Et c'était jamais le même, et jamais le week-end. Les fêtes, on n'y pensait même pas. Une année, à Noël, comme Maxime n'avait eu aucun jour de congé, la famille a décidé d'aller déjeuner dans le restaurant gastronomique où il travaillait. C'était une folie, mais tous se réjouissaient à l'idée de le voir dans son beau costume trois pièces. Ils étaient fiers. En arrivant, ce n'est pas lui pourtant qui les a placés. Lorsqu'il a fini par apparaître pour prendre la commande des boissons, c'est à peine s'ils l'ont reconnu. Il était tendu, livide. Il ne souriait pas. Il ne semblait même pas les voir. Il s'exécutait, professionnel, avec un petit tremblement dans le menton qui n'échappa pas à sa cousine. Il n'était pas seulement concentré, il y avait quelque chose de pétrifié dans son attitude, dans son regard vide. Plus tard, Pauline comprendra que c'était la peur. Pendant les 10 ans où il a travaillé dans la restauration, Maxime ne s'est jamais plaint. Puis il a démissionné et il a changé de métier. C'est alors qu'il s'est mis à parler. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, Pauline Mocor raconte 4 histoires qui lui rappellent celle que lui a racontée son cousin Maxime. C'est l'envers du décor, jusqu'à 14h sur France Culture, évidemment.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
C'était un restaurant près de Colmar. On avait quand même une cuisine assez raffinée. On a emporté le costume en veste blanche, avec le petit papillon noir, dans une salle feutrée, avec de belles nappes, une belle vaisselle, quoi. Enfin, un restaurant gastronomique, quoi. C'était ma première expérience dans le monde du travail. J'avais 15 ans. Mon patron est un homme très charismatique, vraiment le gourou, quoi. Dès qu'il arrivait en cuisine, tout le monde était sur le qui-vive. Hein. C'était quelqu'un qui n'était pas là pour plaisanter et qui ne nous laissait aucune distraction, quoi. Il était très dur, très très dur. Et assez fort, assez costaud, grand, très orgueilleux. Quand tu es grand et fort et que tu fais, je sais pas, 120, 130 kilos, je veux dire, on doit arriver, quoi. Moi, il me faisait peur à l'époque. Ah, il me faisait peur parce qu'il avait de l'emprise sur tout le monde et je voyais des cuisiniers qui étaient tous, pour la plupart, mes aînés, qui en avaient 30, 40 ans et qui avaient peur devant lui. Donc quand t'arrives et que t'as 15, 16 ans et que tu vois un bonhomme comme ça tenir toute une brigade, ça surprend, quoi, ça impressionne. De toute façon, quand il s'adressait à toi, tu pouvais être sûr qu'il allait... C'était très rare qu'il s'adressait sans gueuler, quoi. Je sais même pas s'il était capable de parler doucement, j'ai pas le souvenir en tout cas. On démarrait le matin, il devait être 9h, il me semble. On était censé faire une coupure qu'on ne pouvait pas faire forcément, donc on terminait vers 1h, 1h30 du matin. Enfin, donc ça faisait des journées de, grosso modo, 16h. Quoi. Et c'était dur, moi je rentrais donc le soir, j'étais écroulé par la fatigue et puis j'en pleurais. J'étais pas bien, je me demandais si réellement la vie, le monde du travail, c'était ça, quoi. C'est qui met les points ? Après, les heures de travail, c'est pas ce qui m'a le plus dérangé, c'est disons, le fait d'être mal considéré, quoi. À un moment donné, quand tu fais un travail, la seule chose que t'attends, c'est de la reconnaissance, un petit peu de reconnaissance, tu vois, ça fait pas de mal, ça encourage, ça... Et quand on n'a pas du tout de reconnaissance, et qu'en plus de ça, il fait l'inverse. Il te dit que tu fais de la merde. Tu vois, je veux dire, c'est là où tu te poses des questions. Tu doutes. Tu sais, ce sentiment que tu as d'être à moins que rien, quoi. De te dire, je vaux rien, quoi, tu vois. En fait, à quoi je sers? Pourquoi je continue à y... Enfin, pourquoi j'y vais tous les matins, finalement? Ils pourraient très bien se passer de moi. Ils n'ont pas besoin de... Ils n'ont pas besoin d'un gars comme moi, tu vois. Ça s'est fait tout doucement, en fait. Une fois, j'ai répondu. Donc, j'ai ouvert ma bouche. Il était derrière moi, j'étais en train de débarrasser une table. Enfin, je rentrais de salle avec des assiettes en main. Il m'a fait une remarque, j'ai répondu. Il m'a mis un coup de pied au cul, quoi. Mais un coup de pied très fort. Enfin... il a voulu me mettre un coup de pied au cul, mais il m'a tapé en même temps les testicules. Une fois, il m'a chopé. En service, on devait toujours avoir une peau de visage irréprochable, c'est-à-dire sans aucun poil. Il fallait toujours être bien rasé du matin, tu vois. Moi, à l'époque, j'avais pas beaucoup de poils sur le menton, mais il arrivait que j'ai quelques poils sur la moustache. Et ce jour-là, je sais pas, il était mal luné, donc il m'a chopé au col. Il m'a plaqué contre le mur. Je me souviens de l'endroit, hein, surtout dans le restaurant, c'était il y a 20 ans, mais je m'en souviens, tu vois. Et il avait donc un petit chalumeau qui sert en cuisine, notamment à gratiner certains plats ou à finir les crèmes brûlées là, pour faire caraméliser le sucre. Il avait ce chalumeau en main, il m'a dit clairement que si je revenais avec des poils sur la moustache, il me les cramerait avec le chalumeau. Ce jour-là, j'ai rien dit. J'ai dit oui monsieur, quoi. Oui chef. J'étais à la fois tenu par cette entreprise, par cet homme, qui avait quand même pas mal d'emprise, et j'étais à la fois obligé de continuer mon cursus scolaire. Tiens, à un moment donné, tu te dis que c'est comme ça, quoi, et puis t'assumes, hein, et tu lèves la tête et tu continues, quoi. Tu penses, tu sais pas, t'as 15 ans, 16 ans, je vais dire, voilà, tu découvres. Un jour, je me suis réveillé, quoi. Quelque part, inconsciemment, j'étais sous une emprise. Mais c'est quelqu'un qui, je pense, a dû en prendre plein la gueule quand il était gamin, en prendre plein la gueule quand il est rentré dans le monde du travail. Quand il a démarré en cuisine, il a dû en prendre plein la gueule. Tu vois ? Et le schéma, il le reproduit, quoi, finalement.
Je m'appelle Pierre, j'ai 33 ans, je travaille toujours dans la restauration, mais je travaille plus dans la restauration en France. J'ai quitté Lyon et la restauration à Lyon, par rapport à ce qui m'est arrivé, je préfère l'éviter, parce que ça reste quand même une petite famille. J'ai vécu une violence par mon employeur quand je travaillais dans un restaurant réputé de Lyon. Le propriétaire est étoilé. On est vraiment sur le pape de la gastronomie. Il y a un prestige, il y a un nom. Les gens savent que si vous travaillez dans ce groupe, vous êtes une personne qui a l'élégance, qui a une éducation, si vous voulez. Je découvre la restauration en plus à ce moment-là. Et là, je me passionne d'un coup. Je tombe amoureux du métier. Mais l'ambiance avec le directeur, quand il n'était pas de bonne humeur, on passait pas des bons moments. Il y avait constamment cette peur surtout et cette crainte au quotidien de mal faire les choses, de peur de se faire littéralement jeter comme une merde, concrètement. Il faut que le gars il vous gueule dessus, il faut que le mec il vous humilie devant tous vos collègues. Tout le monde se fait tout petit quand il commence à gueuler, quoi. C'est impressionnant, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et c'est tellement fort comme engueulade qu'on voit le fond de sa gorge et il vous crie dessus comme si vous étiez, excusez-moi l'expression, mais plus qu'une sous-merde. Je dois vraiment rien valoir pour qu'on me crie comme ça dessus, quoi. Même ma mère, elle m'a jamais gueulé comme ça dessus. Ça va, j'ai compris, je suis une merde, ok. Pardon monsieur, quoi. Pardon monsieur. Voilà. C'est ce qu'il vaut mieux répondre, en fait. Aujourd'hui, je pense que si je me faisais engueuler comme ça, j'en rigolerais. Tellement c'est absurde de crier autant sur quelqu'un. Mais Après, ça a beaucoup débordé. Avant-hier encore, pourtant ça s'est passé il y a 10 ans, j'ai encore rêvé de cette scène, par exemple. Une scène où il y a le directeur de l'OL qui, avec sa femme et sa fille, qui me plaisait à l'époque, c'est la famille Faccioli, Marino Faccioli. Après les matchs, ils buvaient un verre. C'était le restaurant officiel pour le déjeuner, le dîner d'après les matchs. Donc on avait tous les officiels, le maire et parfois des ministres. Ils vont passer au café. Le directeur décide de s'asseoir avec eux, parce qu'ils sont copains. Moi, je viens pour prendre la commande, savoir s'il veut boire quelque chose. Et je me tourne donc vers la fille de Marino Faccioli et je lui fais un sourire. Je la trouvais jolie. Et puis là, d'un coup, quand le directeur de l'établissement me voit sourire et dit tout de suite « Non, mais cherche pas, chez Faccioli, il n'y aura jamais de basané, il n'y aura jamais de noir, jamais d'arabe, jamais de métis. C'est même pas la peine d'essayer. Allez, vas-y, pars, va travailler. » Comment vous voulez répondre à un truc pareil, franchement? Le jour où il m'a dit ça, là j'ai compris que la personne que je respectais le plus au monde n'en avait rien à foutre de moi. Elle pouvait m'humilier comme ça, facilement, devant des gens importants, et devant une fille qui me plaisait. Donc ça devient de plus en plus compliqué d'aller travailler, ça devient dur parce que la passion que vous avez, ben, c'est comme... vous êtes le loup, hein. En fait, un jour, il y avait un match, je me souviens, c'était Lyon-Auxerre. J'avais un cuisinier qui me titillait. Donc du coup, il voulait pas envoyer ce que je lui demandais. Donc du coup, je vais voir mon directeur en salle. Lui, il est énervé, il est agacé. Il en a marre de m'entendre, en fait. Au lieu d'aller voir ce qui se passe, il me prend par le bras, il me fait traverser toute la salle, il ouvre la porte de la cuisine, il me met une claque et une balayette, je suis à sol. Je suis à terre. Il y a le chef de cuisine qui voit ça. Il y a un policier dans la cuisine qui vient se faire un peu rincer pendant les matchs, toute la sécurité qu'il y a autour, qui discute avec le chef, qui mange un petit dessert du jour. Moi, je prends mes jambes à mon cou, je descends dans le vestiaire, je prends mes affaires. Et là, quand je sors du vestiaire, je le vois dans le couloir qui arrive vers moi. J'avais l'impression qu'il allait me bouffer. Il a compris qu'il a fait une connerie. Du coup, il commence à me dire « Ouais, mais pourquoi t'es chiant? Mais pourquoi tu fais ça? Mais machin. Tu peux pas fermer ta gueule. Combien de fois je t'ai dit de fermer ta gueule ?» Et moi, je pars très très vite parce que j'ai peur. Je me suis barré en courant tellement j'avais peur. J'y retourne plus parce que, en gros, je fais un abandon de poste. Ça sert à quoi d'y retourner de toute façon? Pour s'en prendre une autre? Je saisis le conseil des prud'hommes et donc on reçoit une convocation pour une première séance de conciliation. Dans la salle de conciliation, vous avez moi, lui et son avocat. Et ils me font une proposition en me disant « Écoute, on me donne 2000 euros et on signe la conciliation. » On sait très bien, dans le groupe, qu'à chaque fois qu'il y a un prud'homme qui s'annonce, on paye les employés pour pas qu'ils aillent au prud'homme, pour pas salir la réputation. C'est une pratique courante. Mais moi, je n'accepte pas les 2000 euros. Je vois son visage qui se dépite. Et là, il prend la parole. D'habitude, c'était son avocat qui me parlait. Et là, c'est lui qui s'adresse à moi en me regardant dans les yeux, en me disant « T'es sûr que tu vas aller au bout? Parce que si tu vas au bout, et même si tu t'obtiens gain de cause, ça va pas être bon pour ta réputation à Lyon. Écoute, moi ce que je te propose, on te fait un chèque de 3000 euros, et moi j'évite de te griller sur la place de Lyon, quoi, en gros. » Et là j'avais la plume sur le papier, et à ce moment-là je le regarde, et encore une fois je me laisse avoir, quoi. Il est tellement charismatique, ce mec. Il vous fait du tort, il vous rabaisse, et pourtant, vous arrivez quand même à l'aimer au fond, vous voyez? C'est un truc de fou. Et c'est ça, je pense, c'est ce qui me fait même le plus mal aujourd'hui. C'est d'arriver à aimer quelqu'un, qui est votre mentor, et qui derrière arrive à vous démonter. Vous voyez ce que je veux dire? Désolé. J'ai été seul à ce moment-là, et... En fait, c'est ce que je viens de vous dire qui me choque le plus, quoi. On se rend compte que vous... vous aimez quelqu'un qui vous déteste. Je suis désolé. Et donc du coup, bah voilà, ça se termine comme ça, quoi. Et au final, je me rends compte qu'il s'en est bien tiré, quoi.
France Culture, les pieds sur terre.
Ma passion, elle a commencé dans la cuisine de ma mère. J'étais tout le temps dans ses pâtes, à goûter les pâtes à gâteau. À la question « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», moi, je savais déjà que je voulais être chef. Pour moi, c'était une évidence. La cuisine, c'était une évidence. Donc, arrivé au lycée, au moment où on doit choisir nos écoles pour nos études supérieures, Ferrandi m'a accepté. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Alors Ferrandi, c'est le Harvard de la cuisine française. Il nous forme à l'excellence. On apprend directement la cuisine dans des grands restaurants. On a commencé l'école et un mois et demi plus tard, on rentrait en stage. Donc au début, ça allait. C'était à peu près correct. Et puis, je pense au bout de 3 semaines, 1 mois, ça a commencé à se compliquer un peu. Mes collègues étaient déjà plus brusques dans la façon de donner leurs ordres. Ça passait éventuellement aux insultes. Déjà, j'ai eu beaucoup de sales bourges, de sales putes, de salopes. J'ai dû avoir aussi des « t'es qu'une sale conne »,« t'es qu'une merde, t'arriveras à rien », les trucs comme ça. Au début, bon, on fait pas vraiment attention à ce qu'on nous dit parce qu'on a l'impression que ça fait partie du décor. On a l'impression que c'est normal. Ça a continué avec des mains aux fesses, avec des bousculades. Au moment de passer dans les différentes salles, en fait, par exemple, on avait la salle où on faisait, par exemple, la préparation des légumes, qui était pas plus grand qu'un placard, c'était vraiment minuscule, pour passer d'un plan de travail à l'autre. Généralement, mes collègues se frottaient à moi ou passaient vraiment avec une main bien placée. Il y a une fois où j'ai vraiment eu peur, c'est le jour où mon second de cuisine a essayé de me choper dans un coin. C'était dans une toute petite salle, c'était au niveau de la plonge. Et l'endroit est vraiment pas grand, ça doit faire peut-être 4 mètres carrés. Et en fait, plus il s'avançait, et moi je me retrouve coincée, dos au mur. Il me parlait à peut-être 2 ou 3 cm de moi, en fixant ma bouche. Là, je me sens pas bien. Je me sens pas bien parce que je suis incapable de bouger, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Et puis, ce commis n'était pas arrivé à ce moment-là, je pense qu'il aurait essayé de m'embrasser. Et je ne sais même pas ce que j'aurais été capable de faire. Le jour où j'ai décidé d'appeler quelqu'un, donc c'était mon chef de Ferrandi, et je lui ai raconté tout ce qui se passait, à quel point ça commençait à être dur. Et il m'a répondu, Constance, il faut que tu t'y habitues, ce sera comme ça toute ta vie. Je me suis dit, non, c'est pas possible, je vais pas pouvoir travailler comme ça toute ma vie. On va se reconvertir, on va penser à autre chose, et puis il est pas trop tôt, quoi.
Je m'appelle Yannick Bilega, j'ai 21 ans. J'ai toujours grandi dans l'esprit qu'il fallait travailler dur pour réussir dans la vie. Et à 19 ans, j'ai eu l'occasion d'intégrer une cuisine, une brasserie Bocuse. Ça faisait 2 ans que j'y travaillais avant qu'il se passe ça, donc de mes 19 à mes 21 ans. J'avais le poste de commis de cuisine, mais bon, j'ai une belle occasion, parce que ça s'est présenté comme une belle occasion. C'est une semaine après avoir intégré l'équipe, un chef de partie est parti du jour au lendemain, ce qui m'a donné l'opportunité donc de prendre sa place. Et voilà, le chef de cuisine m'a clairement dit, si tu tiens le poste, tu resteras à ce poste-là, et voilà. Et j'ai tenu le poste. Quand on fait de la cuisine, c'est cette mentalité qu'il faut avoir. C'est toujours vouloir aller plus loin, toujours vouloir donner plus. Pendant 2 ans, ça ne m'a pas dérangé. Parce qu'encore une fois, j'ai travaillé dans l'esprit où on me promettait une augmentation. On me promettait de monter en grade. Je faisais des heures que je ne comptais pas. Je faisais quand même beaucoup d'heures. Je courais littéralement dans ma cuisine pour pouvoir être en place pour le service. Et tout ça en espérant avoir un retour, en espérant monter en grade. Et enfin, je veux bien que vous compreniez que c'est pas, je me plains pas, parce que c'est les horaires d'un cuisinier, c'est comme ça. On ne compte pas ses heures. Si on compte ses heures, c'est qu'on n'aime pas son métier. Donc les heures, c'est pas le problème. C'est comment on est traité, comment. Donc au bout de 2 ans, j'ai décidé de mettre mon employeur devant presque un ultimatum en lui disant voilà, ça fait 2 ans que je travaille comme un damné. Je pense avoir mérité mon augmentation. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je vais travailler ailleurs. Je suis allé demander mon augmentation un peu avant les fêtes, parce que un restaurateur, c'est là où il a le plus besoin de son équipe, c'est avant les fêtes, avant le nouvel an, avant Noël. Il m'a dit que c'était mérité, que je fallait surtout pas que je parte, parce qu'il était très satisfait de mon travail, qu'il était très content de ce que je faisais. Donc moi, de mon côté, j'étais très fier. Donc mon employeur me promet l'augmentation pour le mois de janvier. Alors bien sûr, rien n'a été signé. J'ai eu confiance. Puis encore une fois, c'est toute une institution. Ce monsieur, c'est quelqu'un qui est quand même de très connu sur Lyon, qui a beaucoup de relations. Et donc j'ai confiance. Et malheureusement, j'aurais pas dû, parce que les fêtes sont passées. Et le mois de janvier, j'ai ma fiche de paye. Et c'était toujours écrit commis de cuisine. Et j'avais toujours mes 1350, 1450 de salaire. Donc je me braque un peu. Et j'ai demandé à mon employeur pourquoi l'augmentation n'avait pas été donnée. Et il m'a regardé avec un petit sourire en me disant qu'il ne m'avait jamais fait d'augmentation et que je ne méritais pas cette augmentation. Je l'ai regardé dépité en lui disant « Mais vous m'avez promis cette augmentation, on s'est vus tous les deux, vous m'avez dit de ne pas partir, de rester parce que j'étais un bon élément. » Et il m'a dit que je ne méritais pas ce salaire, qu'il ne me le donnerait pas. Que des comme moi, il en chiait. Alors ça, c'est vraiment mot pour mot. Ça m'a choqué. Des comme moi, il en chiait tous les jours. Que c'est pas ça qui manque. Des commis de cuisine, il y en a partout. Et que si j'étais pas content, je pouvais aller voir ailleurs. Voilà. J'ai pris mes affaires et j'ai dit, si des comme moi, vous en chiez tous les jours, vous avez qu'à aller aux toilettes, moi, je m'en vais. Donc le vendredi soir, j'ai quitté mon poste. Le samedi passant, je ne suis toujours pas retourné sur mon lieu de travail. Et le dimanche arrivant, écoutez, moi, si je paye pas mon loyer à la fin du mois, si j'ai pas mon salaire, j'ai plus rien. Et je me retrouve à la rue, donc obligé de retourner au travail. Le dimanche matin, je suis retourné sur mon lieu de travail. Et quand il est arrivé donc dans la cuisine, il a soufflé en disant « Toi, je te serre pas la main, je vais pas me salir. De toute façon, dans pas longtemps, tu vas partir de toi-même, t'inquiète pas. » Bientôt, tu seras plus là. Et moi, j'ai souri et je lui ai répondu que moi, j'étais très bien dans son entreprise et je comptais rester ici encore très longtemps et que moi, il n'y avait pas de problème, je comptais pas partir. Et c'est là qu'il s'est braqué et qu'il est monté dans les tours et qu'il a commencé à m'insulter. Il est arrivé à un moment donné où il a pris la décision de me mettre une droite littéralement et je me suis... J'ai même fait 2 pas en arrière tellement que le coup était violent. Je me suis retrouvé hébété pendant 5-10 secondes, quand je l'ai vu qu'il continuait à venir vers moi pour m'en mettre une autre, je l'ai saisi, je l'ai précipité au sol et je l'ai maintenu au sol. Jusqu'à ce que son bras droit et le chef de cuisine nous séparent. On m'a calmé, on m'a dit « calme-toi, faut pas que tu t'énerves, il s'est rien passé ». Je lui ai dit « non mais attendez, vous vous rendez pas compte, il vient de me mettre une droite, il vient de m'en coller une, là. Si, il s'est passé quelque chose ». Et on m'a affirmé, non, il s'est rien passé. Allez, vaut mieux que tu t'en ailles, va-t'en, rentre chez toi, va-t'en. Je me suis directement rendu au commissariat. Au commissariat, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas prendre ma plainte, que je devais d'abord aller à l'hôpital, faire déclarer mes blessures par un médecin. L'après-midi, donc après l'hôpital, j'ai déposé plainte. Et on m'a dit, mais si vous ne prenez pas d'avocat, cette affaire n'ira pas plus loin. Donc j'ai quand même un peu attendu parce que un avocat, c'est quand même beaucoup de frais, c'est quand même beaucoup d'argent à donner. Au total, pour l'instant, j'en suis à peu près autour des entre 4 et 5 000 euros. Donc c'est à peu près l'économie c'est une bonne partie de ma vie que j'ai donnée là. Moi, 4000 euros, c'est comme gagner au loto. Si, enfin, c'est énorme. C'est pour moi, c'est vraiment une grosse somme d'argent pour moi. Et donc, j'ai pris un avocat parce que, encore une fois, il faut savoir que ce monsieur, lui aussi, a porté plainte contre moi. Son bras droit depuis plus de 10 ans et le chef de cuisine, qui est donc son associé, qui ont assisté à la scène, témoignent en ma défaveur. Donc disent, il ne s'est jamais rien passé, Yannick Bilega ne s'est jamais pris de coup. Lui, en revanche, a été physiquement agressif, a porté atteinte verbalement et physiquement à Monsieur X. Même si moi j'ai un coup et que lui n'a rien du tout, vu qu'il y a 3 témoins qui disent ça, c'est lui qui a raison. Le jour de la confrontation avec la police, j'ai clairement été entendu en tant que suspect. On me l'a bien fait sentir que c'était moi qui était suspect et non pas lui. On m'a demandé mon adresse, on m'a demandé quel immeuble j'y vais, quelle porte, si j'avais des chiens, si j'étais en possession d'armes dangereuses chez moi. Enfin, on m'a posé des questions comme si j'étais vraiment un criminel. Voilà, on m'a posé des questions comme si j'étais un criminel. Et quand on m'a annoncé qu'il n'y aurait pas de suite, j'ai posé la question, donc c'est normal. Je me suis pris une droite, on m'a demandé de dégager, c'est normal. Et on m'a répondu, c'est un non-lieu. Donc ça, c'était mercredi dernier, donc je suis en train de prendre conscience que je vais perdre, en fait. Je vais perdre. Voilà. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around, hey, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around, hey, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et l'Envers du Décor, un reportage de Pauline Mocor avec un coup de main d'Émilie Chaudet. La réalisation était signée Marie Placet. Merci à Maxime, à Yannick Bilega, à Constance, à Benjamin, à Brigitte, à Régis, à Bertrand Bolsinger, à Franck Pinet Rabaroust, à Angèle Fontaine et à Jean-Claude Lévy. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Vos commentaires, réécoute et podcast franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre. Je vous souhaite une bonne après-midi à l'écoute de France Culture.